Espace 2, Annick Chuin.
Bonjour. Chacun d'entre nous a un jour eu un prof merveilleux, tel Camus qui remerciait lors de la remise du prix Nobel son professeur, Monsieur Germain. Bienvenue à vous, bienvenue dans le meilleur des mondes. Et certains sont devenus des enseignants et parfois des enseignants merveilleux. Mais l'affaire n'est pas simple et le face-à-face avec l'élève, soumis au stress, à la pression sociale et politique et parfois à la violence. Notre invité, depuis plusieurs décennies, a le goût d'enseigner et celui de faire de la recherche en pédagogie. Il s'appelle Philippe Mérieux. Il travaille sur le terrain, instituteur aussi bien que professeur à l'université, à Lyon. Il rencontre sans relâche les enseignants de différents pays. Et il a écrit de très nombreux ouvrages dont vous trouverez quelques titres sur notre site. En un mot, il croit à l'éducation, avec passion, mais sans angélisme. Philippe Mérieux, bonjour.
Bonjour.
Merci donc de passer cette heure en notre compagnie, dans les studios de la Radio Suisse Romande. Nous sommes à Lausanne, nous sommes en Suisse, un pays que vous connaissez bien, non ?
C'est un pays que j'ai d'abord connu intellectuellement, par les livres, par ses auteurs, par ses grandes figures, avant d'y venir régulièrement. Mais c'est un pays pour lequel, moi, en tant que pédagogue, m'intéressant aux questions éducatives, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'attention et d'une certaine manière, beaucoup d'affection. Parce que vous avez réussi à faire de plein de choses sur le plan éducatif. Vous avez hébergé Rousseau quand nous autres Français, nous l'avons envoyé...
Se
faire pendre ailleurs. Et puis des hommes comme Pestalozzi, Girard, Piaget plus récemment, et puis toute l'école genevoise ont marqué d'une manière extrêmement profonde la réflexion pédagogique européenne et même mondiale.
Vous venez ici notamment pour enseigner ?
Alors, il m'arrive de donner des cours à Lausanne ou à Genève, mais je viens surtout pour travailler avec des enseignants, pour réfléchir avec eux sur l'évolution du système éducatif, et puis parce que la Suisse est aussi embarquée dans des débats sur l'éducation, sur la pertinence de telle ou telle réforme, et que c'est toujours intéressant de confronter les points de vue entre des pays qui ont expérimenté des formules différentes.
Mais là, on se dit que vous feriez mieux d'aller en Finlande, c'est là que les choses se passent vraiment différemment.
Alors, la Finlande, effectivement, c'est le pays qui est en tête dans toutes les comparaisons européennes. C'est pas sûr que ce qui se passe en Finlande soit facilement transposable dans d'autres pays. Hein. D'une part, c'est un pays quand même avec un climat particulier, une histoire particulière. C'est un pays qui a fait des choix éducatifs de longue date, qui sont pas forcément des choix que l'on peut prendre et refaire mécaniquement ailleurs. Et puis, c'est un pays dans lequel il y a aussi des aspects un peu moins visibles, mais pas toujours très favorables pour l'éducation. On ne sait pas, par exemple, qu'en Finlande, eh bien, il y a une très grande instabilité de l'emploi chez les enseignants, qu'il y a aussi des situations extrêmement précaires qui continuent à exister.
Oui, ce qu'on sait, c'est que dans le rapport PISA, ils sont en tête.
Voilà, dans le rapport PISA, ils sont en tête et ils ont... plutôt quelques bonnes solutions ou quelques bonnes idées. En tout cas, ils montrent, et ça c'est bien, que c'est pas parce qu'on supprime les notes, qu'on diminue la pression scolaire, qu'on introduit des ateliers et qu'on insiste beaucoup sur la culture, la musique et le théâtre, qu'on fait baisser le niveau des élèves dans les disciplines qu'on appelle fondamentales.
Mmh. Hong Kong est également dans le peloton de tête, je crois. Puis voilà, là, la pression est plus grande, non ?
Hong Kong ou la Corée, la Corée du Sud, est également dans le peloton de tête, ce qui prouve bien d'ailleurs qu'on peut obtenir d'excellents résultats avec des projets de société complètement différents. Puisque la Corée du Sud a des résultats aussi bons que la Finlande en mathématiques, mais avec des méthodes qui sont radicalement et diamétralement opposées. Donc les résultats bruts, statistiques et chiffrés ne donnent pas nécessairement une vision du projet de société et de la réalité des visées éducatives de cette société.
Oui, mais ça peut secouer les consciences. Lors du premier rapport PISA, la Suisse a découvert qu'elle était bien un pays comme un autre et même peut-être un peu moins bien qu'un autre. Ça a été ici une sorte de séisme, surtout en matière de lecture. On est un peu meilleur en maths. Donc ces rapports ont quand même quelques bons côtés, c'est-à-dire de nous obliger à réfléchir, non ?
Oui, absolument. Il nous oblige à réfléchir, il nous oblige à nous interroger, il nous oblige aussi à sortir de nos frontières, ce qui est plutôt une bonne chose. La difficulté quand même en éducation, c'est l'impérialisme du chiffre et du quantitatif, parce que tout n'est pas mesurable en éducation. Et d'une certaine manière, on pourrait obtenir d'excellents résultats avec des méthodes qui seraient mauvaises. Si on me prouvait qu'on peut faire lire les élèves d'une manière très efficace ou les faire réussir en mathématiques en les mettant sous électrode ou en les mettant sous hypnose, c'est pas pour autant que j'accepterai qu'on les mette sous électrode ou sous hypnose. Donc les résultats sont une chose, et je crois qu'il faut en tenir compte, mais il faut aussi regarder ce qui n'est pas mesurable et quantifiable. Il y a une sorte d'hégémonie de la mesure et de la quantification qui, dans des domaines comme la culture et comme l'éducation, font parfois oublier que des choses se jouent ailleurs, sur une autre scène.
Oui, d'ailleurs, lire de manière efficace, ça veut dire quoi ?
À lire de manière efficace, alors un spécialiste vous dira que c'est identifier dans un texte la nature de ce texte et prélever des informations en fonction du projet de lecture qu'on a. On ne lit pas un annuaire du téléphone de la même manière qu'un poème de Mallarmé, de la même manière qu'un roman ou un essai. Lire de manière efficace, c'est savoir comment interagir avec un texte, comment rentrer dans un texte, le comprendre, y trouver de l'information et intérieurement se l'approprier. Alors, c'est pas simplement déchiffrer, bien sûr. Déchiffrer, c'est facile. Tout le monde parvient à déchiffrer. Nous en France, on sait que à peu près tous les élèves déchiffrent à 7-8 ans,
mais
tous
ne
lisent
pas.
Tous ne lisent pas, même à 12, 13 ou 14 ans. Bien sûr.
Philippe Mérieux, vous êtes donc en Suisse, chez vos cousins quasiment, on va dire, donc en milieu connu, voisinant. Savez-vous que ce sont des auditeurs de cette émission qui m'ont écrit pour me dire « mais vous devriez venir écouter Philippe Mérieux, il est formidable ». Alors je l'ai fait, et vous voilà, invité. Les questions qui se posent aux enseignants français et aux enseignants suisses sont un peu équivalentes quand même, les questions qu'ils se posent eux-mêmes.
Alors, il y a sans doute des questions très différentes. Le statut social de l'enseignant en Suisse est bien supérieur à celui de l'enseignant français.
C'est quoi
Financièrement, mais
oui.
Aussi...
La reconnaissance.
Reconnaissance sociale. Il y a une reconnaissance sociale plus grande. L'enseignant français, aujourd'hui, a le sentiment d'être la dernière roue de la charrette, d'être un peu méprisé par l'État, d'être un peu humilié par les parents. Il a le sentiment, après avoir été un notable à l'égal du curé ou du notaire dans le village, d'être devenu un peu un garde-chourme. Et il en nourrit un peu de rancœur et d'amertume. Je trouve qu'en Suisse, on n'a pas tout à fait le même cas de figure. En revanche, il y a des problèmes communs, bien sûr. Les problèmes communs sont liés à un environnement qui évolue extrêmement vite, des jeunes qui ne sont plus du tout ce qu'ils étaient il y a même 7, 8 ou 10 ans, une pression considérable de l'État, on l'évoquait à travers les comparaisons internationales, mais on pourrait montrer qu'effectivement, on attend de plus en plus de l'éducation et de l'école dans une société de plus en plus éclatée, de plus en plus difficile, avec un environnement médiatique, mais aussi une structure familiale qui est très différente et qui évolue beaucoup. Donc il y a probablement des problèmes communs, et en particulier transmettre quoi, transmettre comment, transmettre avec un minimum d'attention de la part des élèves, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus difficile que cela n'a été.
Depuis quand enseignez-vous, Philippe Mérieux ?
Moi, j'ai commencé à enseigner en 1969. J'ai commencé comme instituteur et j'ai enseigné très longtemps dans le premier et le second degré. Et en tant que professeur d'université, je suis souvent retourné, encore il n'y a pas longtemps, enseigner à des élèves qu'on appelle difficiles chez nous. Par exemple, j'ai arrêté la direction d'un institut de formation d'enseignants et après avoir formé des enseignants pendant 5 ans, je suis retourné enseigner pendant plusieurs mois dans une classe de fin de primaire d'une zone difficile, ce qu'on appelle une zone d'éducation prioritaire chez nous. Et j'ai eu du mal. Je dois dire, j'ai eu du mal. Je me suis retrouvé avec des galampiens de 10 à 12 ans, difficiles, dont la moitié était en foyer, sans famille, et que j'avais du mal à tenir, comme on dit. Et je me suis aperçu qu'il ne suffit pas d'avoir de très bonnes théories en matière éducative. Il faut aussi comprendre comment être présent, focaliser l'attention, organiser des rituels, mettre en place des situations d'apprentissage, et que tout ça, il est intéressant que les théoriciens, de temps en temps, s'y confrontent de près.
Il faut aller sur le terrain, c'est ce que vous faites.
Moi, je vais très souvent sur le terrain, je ne mythifie pas le terrain, les problèmes, on peut les résoudre ailleurs que sur le terrain, mais il faut comprendre les problèmes concrets que les enseignants se posent. Et moi, en retournant récemment enseigner dans le premier degré, J'ai compris en particulier qu'un des problèmes majeurs que rencontraient mes collègues et que rencontrent aussi à certains égards les parents, c'est le déficit d'attention qu'ont les élèves aujourd'hui. On a des élèves qui sont des élèves zappeurs, hein, qui ont l'habitude d'être devant la télévision avec une télécommande, qui changent à chaque instant de programme. Et qui se retrouvent à l'école devant un enseignant sans pouvoir changer de chaîne, avec l'obligation de rester plus de 3, 4 ou 5 minutes à écouter, et parfois d'une manière un peu ingrate, des choses pour lesquelles on n'a pas un désir immédiat. Et j'ai observé que ce n'était pas si simple que ça de mettre une classe au travail, de focaliser l'intérêt des élèves. Et que souvent, mes collègues et moi-même, quand je vais dans des classes, on est un peu vampirisés parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui se lève, d'un autre côté, il y a quelqu'un qui a fait autre chose.
Qui téléphone peut-être, ou envoie un SMS, non ?
Envoie un SMS souvent, oui, c'est devenu un sport national chez nous d'envoyer des SMS en classe, en particulier dans l'enseignement secondaire. À peu près tous les élèves savent très bien faire ça. Mais ce qui est peut-être le plus préoccupant, c'est ce que certains auteurs appellent la destruction du psychisme infantile. Ils vont très loin quand ils disent que nous vivons dans une société de l'immédiateté, du tout de suite, où quand on n'est pas intéressé, on change, où il faut à chaque instant faire son caprice parce que la publicité vous dit « fais ton caprice ». Et que tout cela aboutit au fait que c'est vrai, à l'école, quand on demande à l'enfant de s'intéresser à quelque chose sur la durée, c'est un effort qu'il n'est pas toujours prêt à faire et qu'il faut accompagner. Et c'est difficile à l'accompagner à cela. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il est facile d'enseigner ou d'être éducateur aujourd'hui. Je pense que c'est difficile.
Philippe Mérieux, 40 ans, donc 41 ans, puisque vous avez commencé à enseigner juste après mai 68, on en parlera peut-être. 40 ans d'enseignement et toujours enthousiaste, vous faites partie de ceux qui ne fléchissent pas. On voit quand même en Suisse, des profs qui au bout de 30 ans disent « mais juste, je suis épuisé, je n'en peux plus ».
Oui, moi je ne fléchis pas, mais je suis un privilégié. J'ai pu, dans ma carrière, occuper certains postes de responsabilité, j'ai pu occuper certains postes d'enseignement à l'université. Je suis actuellement professeur à l'université, c'est un luxe pour moi à Lyon. C'est un luxe d'aller enseigner dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire. Donc je ne suis pas très représentatif. Je comprends qu'il y ait des professeurs qui n'en peuvent plus. Je comprends que ce soit difficile. Je comprends que ce métier soit même épuisant psychologiquement. D'autant plus que pour beaucoup de professeurs, il y a une sorte d'enjeu personnel fort. Ils vivent des situations d'injustice, ils se donnent comme objectif de faire réussir les élèves, ils ont le sentiment de ne pas y arriver autant qu'ils le voudraient, de ne pas corriger les inégalités sociales autant qu'il serait nécessaire. Et cela, parfois, ils l'intériorisent et c'est vécu comme une sorte d'échec personnel. Et je comprends bien cette difficulté. On attend tellement de l'école et les professeurs sont parfois un peu démunis que face à cela, on peut être épuisé. Il est légitime d'être épuisé. Alors, il faut reconnaître également que les politiques ne sont pas toujours habiles dans la manière dont ils pilotent l'institution scolaire, qu'on soumet parfois celle-ci à des réformes successives et parfois totalement incompréhensibles ou injustifiées. Et qu'on consulte assez peu, finalement, les professeurs, en tout cas en France, sur ces évolutions. Alors moi, je ne suis pas désespéré, bien loin de là. Je reste combatif parce que je crois que l'éducation est un enjeu formidable pour l'avenir. Et je crois qu'une société qui ne croit plus à l'éducation est une société qui ne croit plus à son avenir. C'est une société qui ne croit plus à sa jeunesse et c'est une société qui a baissé les bras, qui vit dans le présent, dans le tout de suite et qui ne s'intéresse plus au monde qu'elle va laisser à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc moi, je reste un passionné d'éducation, complètement passionné, mais je reconnais que c'est pas simple et qu'aujourd'hui, on ne trouve pas, quand on arrive, des solutions toutes prêtes. Voilà. Et même quand on est parent. Au fond, moi, une chose me frappe, moi-même en tant que parent d'ailleurs, c'est que traditionnellement, les parents arrivaient, quand ils étaient avec leurs premiers enfants, avec des solutions qu'ils avaient construites au cours de leur propre enfance. au fond, les parents utilisaient avec leurs enfants ce que leurs propres parents avaient utilisé avec eux. Et puis, voilà, ça fonctionnait en se transmettant de génération en génération. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, hein. Vous ne pouvez pas trouver dans votre sac à dos une solution pour savoir à quel âge il faut acheter un téléphone portable et il faut prendre un forfait de combien. Et la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand un gamin reste scotché 4 ou 5 heures par nuit devant des jeux vidéo ou à regarder YouTube ou Dailymotion, personne n'en a la solution à cette question-là. Parce qu'elle n'existait pas, cette question, il y a 10 ou 15 ans, et que les parents qui sont parents aujourd'hui avec des gamins de 14 ans qui passent leur nuit devant les jeux vidéo, eh bien, ils ne savent pas comment s'y prendre et personne ne sait exactement que leur dire. Il y a des défis nouveaux là, auxquels on n'a pas des solutions, nous-mêmes, toutes prêtes à appliquer comme des recettes qu'il suffirait d'imposer comme ça à tout le monde.
Et il y a peu, je crois que oui, en octobre 2007, vous avez publié Une autre télévision est possible, aux éditions S, Chronique sociale, avec d'ailleurs un dessin de Barigue qu'on connaît bien ici, hein. Une autre télévision est possible, et dit le directeur assis sur son siège en voyant le taux d'écoute monter. Oui, mais pas souhaitable, hein, voilà. Donc vous avez une prise sur ce qu'il se passe, mais en écrivant sur la télé, vous n'avez pas l'impression d'être un peu vieux jeu ? Vous me parlez de vidéo, là,
oui,
c'est
oui,
une vieille chose,
vieux jeu,
hein, la télé.
Non, je suis un peu vieux jeu. Pour la première fois dans l'histoire, depuis 20 ans, la consommation de télévision diminue. Mmh. Et chez les jeunes, elle augmente. Ce qui augmente, c'est Internet, bien évidemment. C'est les autres écrans. Mais la télé reste très importante parce qu'à travers toute une série d'autres médias, elle dicte une multitude d'attitudes, de comportements, et elle est le média que tout le monde regarde et qui sert de sujet de conversation à peu près à tout le monde. Elle est la culture commune d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Alors, à côté de ça, les jeunes écoutent des radios particulières. Chez nous, il y a ce qu'on appelle l'antenne ouverte, où ils passent toute la nuit à parler de leurs problèmes affectifs, sexuels, etc. Les adultes n'écoutent pas du tout ça. Les jeunes vont passer des heures sur Internet à jouer à des jeux comme World of Warcraft ou à aller sur YouTube voir des vidéos en permanence. Ça, les adultes ne le connaissent pas. Je suis d'ailleurs très frappé de l'ignorance dans laquelle les adultes sont de la culture adolescente.
Mmh. Alors, mais dépassé, vous le disiez en quelques mots tout à l'heure, ça va très vite.
Ah oui, ça va très vite. Alors, ça a toujours été un peu le cas, hein. Les ados, ils cherchent à créer leur propre monde, ils ont besoin d'un peu de secret. Mais malgré tout, les parents s'imaginaient un peu ce que c'était la culture adolescente, le rock, le twist, on savait ce que c'était. Aujourd'hui, si j'explique aux parents que les sites les plus fréquentés par les jeunes de 10 à 15 ans, ce sont les sites satanistes, soucoupistes, qui travaillent sur le paranormal.
Mmh, on a les yeux qui s'agrandissent.
Gothique.
Là,
oui. Si j'explique par exemple qu'il y a des sites qui aujourd'hui expliquent aux jeunes filles d'une manière extrêmement détaillée comment se scarifier en cours, etc., les parents ouvrent des yeux comme des billes en disant « Mais qu'est-ce que c'est ça ? On n'a jamais entendu parler de ça. On ne se l'imagine pas. » Je parle j'évoquais YouTube tout à l'heure, qui est ce qui est le plus utilisé et regardé par les ados sur Internet. 1 500 000 vidéos nouvelles par jour, hein, sur YouTube, avec des choses absolument effroyables dans certains cas, comme le happy slapping, c'est-à-dire des persécutions qui sont filmées directement par téléphone portable et qui sont mises immédiatement sur le site avec censuré parfois, mais au bout d'un certain temps. On n'imagine pas tout cela. Les parents sont très très loin, et même les enseignants. Et on arrive à cette situation assez étrange d'adolescents qui vivent complètement dans deux mondes. Un monde d'une culture souterraine, où finalement nous ne pénétrons pas, et un monde d'une culture scolaire, qui est une culture finalement assez superficielle pour eux. Et cette schizophrénie m'inquiète. Elle n'est pas spécifique aujourd'hui, mais elle m'inquiète parce qu'elle est utilisée d'une manière massive avec des industries de programmes extrêmement puissantes, que le jeu vidéo dont vous parliez, c'est aujourd'hui une fois et demie le chiffre d'affaires du cinéma, c'est pas rien, c'est colossal, et que on risque d'avoir des adolescents de plus en plus formatés par ces nouveaux médias, et dont nous ignorons en quelque sorte le formatage. Il est nocturne, c'est un formatage nocturne.
Donc je sais que vous êtes bien éloigné des recettes, mais conseille quand même aux parents et aux enseignants, allez voir ce qui se passe sur le net et ce que regardent les jeunes.
Et d'abord, puis en parler avec eux. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut en parler avec eux. Il se passe des tas de choses sur le net. On ne peut pas, nous, accéder à tout ça. Alors, moi, j'ai une petite expérience amusante que j'ai réalisée à côté de Lyon il y a peu de temps. Le responsable d'une maison de retraite a décidé d'offrir à tous les pensionnaires qui le souhaitaient un ordinateur portable. Donc, il y a 23 pensionnaires qui l'ont accepté. On a acheté 23 ordinateurs portables. Et puis, une fois que ces pensionnaires ont eu un ordinateur portable, il fallait leur expliquer comment s'en servir, bien sûr. Et là, il a eu une idée absolument extraordinaire, le responsable. Il a jumelé sa maison de retraite avec un lycée professionnel de jeunes qui se forment en informatique. Et il a mis deux jeunes comme tuteurs par pensionnaire de la maison de retraite. Alors, j'y suis retourné récemment, et ça, c'est assez extraordinaire, parce que, d'abord, les jeunes ont expliqué, évidemment, avec beaucoup de plaisir à ces personnes âgées comment utiliser l'ordinateur portable. Et ces personnes âgées ont découvert des choses formidables parce qu'elles sont allées visiter là où elles étaient nées, elles ont fait leur généalogie, elles envoient les photos de leurs petits-enfants. Et puis, petit à petit, ces jeunes leur ont montré là où ils vont sur Internet. Et là, des conversations inouïes se sont construites. Et ces jeunes nous disent, c'est la première fois qu'on parle avec des gens de ce qu'on fait sur Internet. Et effectivement, il y a un dialogue entre les générations qui se noue. Et je crois beaucoup à ce dialogue entre les générations. Parfois, c'est peut-être pas les parents qui peuvent le faire. Parfois, c'est les grands-parents. Parfois, c'est d'autres. Mais je crois que surtout, il faut ne pas laisser le jeune seul à seul, face à face, avec un univers virtuel qui est à la fois un univers qui lui permet de rencontrer des tas de monde, des tas de gens, mais qui est aussi un univers qui dissout le monde. Ça c'est très caractéristique de la culture actuelle, de ce qu'on appelle les otaku. Les otaku, ce sont les gamins qui se shootent au manga, hein, et qui sont à la fois des fanatiques de manga, mais aussi des fanatiques d'Internet. Alors, dans une série célèbre de manga, un dessin animé célèbre qui s'appelle Experiment Lane, c'est l'histoire d'une petite fille qui a 10 ou 11 ans et qui reçoit un jour un mail d'une de ses copines qui s'est suicidée et qui lui écrit de l'au-delà. Et elle va décider de quitter le monde et d'aller vivre dans l'au-delà. Et il y a une sorte d'identification entre l'au-delà et Internet. Et ce qui est en train de se passer là, ce qui se passe dans les dessins animés, n'est pas très éloigné de ce que je vois chez un certain nombre de jeunes qui, effectivement, vivent dans l'au-delà, dans une espèce d'au-delà du virtuel, où ils causent avec des gens aux quatre coins de la planète, mais où ils ne rencontrent jamais véritablement personne de concret. Et il faudrait réfléchir à ce triomphe de la virtualité qui, en même temps, permet de parler beaucoup, et en même temps ne permet pas de rencontrer véritablement des personnes. Et
l'écran est un écran.
L'écran fait écran, et il est à la fois une médiation par rapport à ce village virtuel qui est devenu le monde, et en même temps un obstacle pour rentrer, par exemple, dans des relations amoureuses ou dans des relations affectives ou même dans des relations de construction de quelque chose. Ça devient plus difficile. On est devant une génération qui évolue très vite, vous le disiez tout à l'heure, et qui a des comportements qui, me semble-t-il, doivent nous interpeller. Alors, il faut rester distant, il ne faut pas être intrusif, mais je crois qu'il faut être attentif. Il faut être attentif, pas intrusif, mais il faut être attentif à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que pour la première fois en plus, ces comportements ne sont pas très clivés socialement. C'est-à-dire que traditionnellement, la culture chez les jeunes, il y avait la culture des élites, et puis la culture des pauvres, la culture de la classe moyenne. Aujourd'hui, si je prends ce qu'on appelle les phénomènes traditionnels de culture jeune, les jeux vidéo, le manga, etc., voire la tectonique ou le gothique, ou ainsi de suite, il n'y a pas de clivage sociologique. Il y a très peu de clivage sociologique. Tous les jeunes y vont là-dessus. C'est leur culture. Et il s'y passe des choses très étranges.
Mais alors, comment s'en empoigner, Philippe Mérieux, quand on est pédagogue? Est-ce qu'on peut utiliser ce virtuel?
Alors, on peut en tout cas le connaître et puis essayer de regarder ce qui, là, peut faire écho à des objets culturels qui vont permettre de grandir, de comprendre et de s'empoigner avec des problèmes du monde. Moi, Moi, je crois qu'il y a deux attitudes que je condamne l'une et l'autre. Celle qui consiste à dire, au fond, la culture jeune est à excommunier, ça ne vaut rien, les mangas, ça ne vaut rien, etc., etc. Laissons tout ça de côté. Et puis, une autre attitude qui consisterait à dire, c'est formidable, les jeunes sont géniaux, tout ça, ça va remplacer Flaubert, Maupassant, Stendhal, Ramus et tout ça, voilà. Je pense qu'entre ces deux attitudes, il y a sans doute une autre manière de voir les choses qui consiste à dire, on peut partir de ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, sans pour autant les y laisser. Et on peut chercher à faire des ponts. Alors c'est compliqué faire des ponts, mais on peut peut-être parfois tenter de le faire. Réussir à accrocher, par exemple dans la littérature manga, je pense qu'il y a de la vraie littérature manga, la question de la mort, la question de l'amour, la question... Ce sont des questions très fortes et très présentes. La question de la violence, évidemment, est une question très forte et très présente. Je pense que ces questions, il faut leur donner écho dans un champ culturel de plus haut niveau.
Donc Flaubert et le manga.
Je pense qu'il faut Flaubert et le manga, je pense qu'il faut Hésiode et le manga même. Je pense que dans le manga, il y a quelque chose autour, par exemple, du corps. Il y a un rapport au corps, il y a un rapport à la violence, il y a un rapport même à des mythes anthropologiques très forts, celui de la castration, etc. Alors, la castration, c'est Hésiode, c'est Cronos, etc. Et moi, je crois qu'on peut retrouver la mythologie grecque en partant d'un certain nombre de préoccupations et qu'il faut le faire parce que ça permet aussi aux jeunes de relativiser sa culture, sans la mépriser, mais de lui montrer qu'il existe autre chose et que des questions qui le préoccupent lui ont préoccupé les hommes depuis longtemps et qu'elles sont légitimes. Ce qui serait la pire des choses dans notre société, c'est qu'au fond, les grands problèmes qui préoccupent l'humanité depuis toujours, l'amour, la mort, la solitude, l'angoisse, comment faire pour aimer quelqu'un sans l'étouffer ou être aimé par quelqu'un sans être étouffé par lui, ces questions fondatrices de l'humain. Ce qui serait grave, c'est que ces questions, nous les abandonnions complètement à une exploitation complètement commerciale, c'est-à-dire au thriller américain, à Walt Disney, à Sony, etc., que nous laissions ces gens-là faire de l'argent avec l'exploitation des angoisses des jeunes et que nous démissionnions de ce champ-là en ne leur apportant pas un écho sur ces problèmes. Traditionnellement, c'était la religion qui leur apportait un écho. Hein. Le fait que la religion ait disparu ou pratiquement disparu dans nos sociétés, en tout cas pour beaucoup, fait qu'on ne parle plus tellement de ces questions-là. Qui parle de la mort aux jeunes aujourd'hui ? Qui parle de la transgression ? Qui évoque les grandes figures mythologiques qui ont construit notre culture ? Très peu de gens, très peu de gens. Et donc, on va trouver ça dans certains films. Par exemple, le film d'horreur. Pourquoi les ados sont-ils fascinés comme ça par les films d'horreur ? Certains ingurgitent des films d'horreur en vidéo, mais vraiment à longueur de journée. Parce que dans le film d'horreur, il y a une sorte de catharsis par rapport au corps, par rapport à la souffrance, par rapport à des tas de choses. Moi, je crois qu'il faut l'entendre. Il ne faut pas dire les films d'horreur, c'est magique, c'est merveilleux, mais il faut savoir que le gore répond sans doute à une inquiétude que l'on n'est pas capable de traiter par ailleurs et qu'il faudrait peut-être traiter avec un peu plus de poésie, avec une manière peut-être un peu plus philosophique.
Oui, mais difficile de lire un conte à un adolescent, par exemple, ces contes qui donnaient des solutions à l'époque. La figure de l'ogre, le petit pousset qui retrouve sa route, c'est même plus d'ailleurs pour les adolescents, c'est pour les tout-petits. On peut encore faire ça aujourd'hui ?
Ah, le petit pousset, c'est pas seulement pour les tout-petits, c'est une histoire pour adultes aussi.
Oui, hein. Je sais, le petit chaperon rouge aussi, c'est gore.
Le petit chaperon rouge aussi, non. Non, mais il y a des textes, enfin je pense aux grands textes mythologiques, mais tous les romans et toute l'histoire de la littérature nous renvoient fondamentalement...
Oui, textes fondateurs, vous le disiez. Oui,
mais même les textes de la littérature contemporaine qui existent aujourd'hui, il y a de très grands textes qui existent aujourd'hui et qui sont des textes qui fonctionnent très très bien. Moi, je viens de travailler avec des élèves très en difficulté sur un livre qui vient de paraître et qui a eu le prix Pulitzer cette année, qui s'intitule La Route, et qui est un livre absolument merveilleux, qui est une histoire d'une errance après une catastrophe nucléaire, entre une errance avec un père et un fils, un livre McCormack absolument exceptionnel. Et on s'aperçoit que avec ce livre, qui est avec quelques pages de ce livre, qui est un livre écrit avec une économie de moyens extraordinaire, qui est un livre très épuré, on peut accrocher des jeunes, on peut les accrocher, on peut, parce qu'on leur parle de quelque chose qui les préoccupe, l'avenir du monde, la solitude, le rapport entre le père et le fils.
Mais on le fait indirectement, c'est peut-être ça la clé.
Ah, il faut toujours le faire indirectement. Moi, je ne suis pas psychologue. Hein. Je ne vais jamais aller triturer l'inconscient des gens. Je vais leur offrir des objets culturels, des histoires, de la peinture, de la musique, des rencontres, des objets culturels qui servent de médiation et qui, moi, je le dis dans mon langage, hein, de pédagogue, ça relie l'intime à l'universel. Ça leur parle de ce qu'ils ont de plus intime, c'est-à-dire les grandes inquiétudes qu'ils ont en eux, les peurs, les fantasmes, les problèmes qui les tarabustent, avec des questions que les hommes se sont posées de manière universelle et qu'on trouve chez Chrétien de Troyes, comme on trouve chez Roger Martin Dugard ou comme on trouve chez Gilles Chessex ou d'autres aujourd'hui. Relier l'intime à l'universel, c'est offrir. Alors, il faut le faire avec précaution, sans donner le sentiment qu'on va le violer dans son intimité, mais c'est offrir des objets où l'autre va se dire « oui, ça cause de moi, mais d'une certaine manière, ça ne m'oblige pas à m'étaler. »
À me dévoiler, non
plus. À me dévoiler. Oui. Et en même temps, ça m'interpelle sans m'obliger à me dévoiler. Et alors, on peut en parler, et ça, c'est formidable pour les parents et les profs, parce qu'on parle de soi en parlant d'autre chose. Je crois que l'adolescent a beaucoup de mal à parler de lui-même, par définition. Hein. L'adolescent, il est pudique, il ne va pas s'étaler, étaler ses problèmes, sauf dans quelques cas exceptionnels. Mais il a besoin de parler de lui. Et on ne peut parler de lui qu'en parlant d'autre chose. Il faut parler d'autre chose. Il faut parler d'un film, il faut parler d'un jeu vidéo, il faut parler d'un roman qu'on a lu ensemble, il faut parler d'une BD, il faut lire des mangas. Bon, parce que les mangas, c'est pas tout mauvais, puis c'est pas très récent. Hein. Les mangas, ça date des années 1920. Il y a dans les mangas des choses de très grande qualité, il y a aussi des choses extrêmement mauvaises. Mais il faudrait que des parents jettent un coup d'œil sur les mangas. D'abord, c'est très difficile, vous verrez, parce que ça tient à l'envers. On commence par la dernière page, et puis même toutes les bulles sont à l'envers. Alors, il y a un vrai exercice intellectuel.
C'est bon contre Alzheimer, ah, ça, oui.
C'est un bon entraînement intellectuel. Et puis, il faut lire parce qu'il y a des mangas qui sont admirablement faits et qui disent très très bien la difficulté d'être au monde quand on est ado aujourd'hui. Hein. Vous savez, la caractéristique du manga qui est née dans les années 20, mais qui s'est surtout développée au Japon après la Deuxième Guerre mondiale, c'est de pratiquement être toujours dans une société post-nucléaire. C'est-à-dire que globalement, quand le livre commence, le monde est détruit. Le monde est détruit, Hiroshima a déjà eu lieu. Et on est dans une espèce d'autre univers. Et contrairement aux super-héros américains, où il y a Superman, Spider-Man, qui vont résoudre tous les problèmes, les héros, les mangas, sont des gens en difficulté, en quête, souvent maladroits, qui n'y arrivent pas, et qui vont avoir des aventures très compliquées. Et derrière tout cela, il y a des choses qui sont tout à fait intéressante à regarder, même pour nous autres adultes, à regarder de près et à en parler avec nos enfants. Moi, j'ai été frappé depuis quelque temps, de voir des jeunes qui ne lisent absolument pas, que les parents ne peuvent pas faire lire, que les professeurs ne peuvent pas faire lire, et qui arrivent le samedi, qui font la queue pour rentrer le plus tôt possible dans les magasins, dans les librairies, et qui restent assis à lire des mangas qu'ils ne peuvent pas acheter toute la journée jusqu'à la fermeture, parce qu'ils sont complètement passionnés par ça. Alors, ça doit nous interpeller. Si ça les passionne, c'est peut-être mauvais, mais c'est qu'il y a quelque chose qui parle d'eux. Et s'ils ont besoin de parler d'eux là-dedans, c'est qu'on ne parle peut-être pas assez d'eux ailleurs. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, au fond, le dialogue entre les générations est un peu en panne et je me dis qu'il faut saisir toutes les occasions pour le reconstruire.
Je vous écoute et je me dis, mais ils ne parlent pas seulement de l'école, ils parlent de la vie en général, Philippe Mérieux.
Oh, je parle de l'école parce que l'école, c'est aussi la vie en général. L'école est dans la vie et j'espère qu'il y a de la vie dans l'école.
Mais il y a des programmes scolaires, il faut.
Il y a des examens.
J'étais prof, là, je me dirais, oui, c'est un beau programme, mais alors, comment je vais mettre ça en place?
Il faut d'abord, quand on est professeur, bien sûr, traiter du programme. Simplement, les programmes laissent beaucoup plus de liberté en réalité que la plupart des professeurs ne l'imaginent. On peut traiter le programme de mille et une manières, on peut passionner les élèves. Je crois que pour passionner les élèves, d'abord, il faut soi-même être passionné de ce qu'on enseigne, il faut exprimer quelque chose devant eux, il faut ensuite aussi être capable d'être dans cette distance éducative qui est à la fois une proximité, il faut comprendre ce qu'ils sont, et en même temps, on n'est pas eux, on est différent. On est assez proche pour les comprendre et assez différents pour avoir quelque chose à leur apporter. Il faut assumer cette double posture de la proximité et de la différence radicale. Et c'est compliqué d'être éducateur aujourd'hui.
Paraît-il, vous dites dans un de vos livres, vous en avez écrit plusieurs, que chaque bon prof a vraisemblablement eu un professeur magnifique dans sa vie. Vous en avez eu un comme ça ?
Oui, moi j'en ai eu un, bien sûr. Je dis que la plupart des professeurs, ils enseignent parce qu'ils veulent transmettre une expérience qu'ils ont vécue eux-mêmes d'une rencontre fabuleuse, fantastique. Alors parfois, ils y arrivent, parfois ils sont déçus parce que le professeur, il était en général un bon élève dans la matière qu'il enseigne. Alors il a parfois un peu de mal à comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas la matière que lui-même enseigne. Et il faut... Quand on est professeur, chaque fois se dire que nous, on a été un bon élève, qu'on a aimé, qu'on aime encore ce qu'on enseigne, mais d'autres peut-être ne l'aiment pas.
Mais qui était ce professeur, Philippe Mérieux ? Vous étiez dans les Cévennes à l'époque, vous êtes Cévenol.
Je suis Cévenol, je suis du sud de la France. Moi j'ai rencontré effectivement un professeur de lettres quand j'avais 14 ou 15 ans, qui m'a ouvert complètement à la littérature, qui m'a ouvert à travers une littérature qui était d'ailleurs assez locale, à travers la littérature protestante cévenole, des gens comme André Chanson, tout ça, qui sont maintenant totalement oubliés, mais qui était une littérature très austère, mais qui me parlait beaucoup, moi, et qui me permettait de comprendre, par exemple, l'environnement intellectuel et social dans lequel je vivais. Et cette rencontre-là, j'ai eu envie de la pérenniser, donc de la reproduire à mon tour. Et je me souviens que dès mes premières années d'enseignant du premier degré, j'ai lu des histoires, j'ai lu des romans à mes élèves, et que c'était des moments de bonheur pour moi extraordinaire, et de sentir que quand je lisais des histoires à mes élèves, ils pouvaient être fascinés, intéressés, accrochés, parfois agacés, mais de toute façon concernés. Je trouve que c'était extraordinaire. Et je trouve d'ailleurs que dans l'ensemble, nous autres adultes ne racontons plus assez d'histoires. On ne sait plus assez raconter vraiment des histoires. On parle trop vite, on est dans une espèce de course et d'accélération permanente. On ne prend pas le temps de raconter, y compris notre vie quotidienne.
Dans un autre de vos livres, Philippe Mérieux, c'est vous qui le dites, vous dites « Oh bon, je passe peut-être pour un vieux con hein. ».
Oui, parce que je suis moi-même un peu vieux. Mais non, quand je dis un vieux con, ça veut dire que j'ai bien le sentiment que quand je
dis... Un utopiste.
Un utopiste et puis quelqu'un qui... probablement est très ambivalent par rapport à la modernité, c'est-à-dire qui en même temps pense qu'il est absolument impossible de revenir en arrière. Moi, je ne suis pas du tout nostalgique. Je pense que les gens qui disent qu'il faut revenir avant mai 68...
L'odeur de la craie, ça ne...
Ouais, et puis avant mai 68, il faudrait voir aussi ce qu'était le statut de la femme avant mai 68, ce qu'était ce que j'appelle la pédagogie noire. Quand même, il y avait des endroits où, globalement, l'humiliation était au rendez-vous quotidien. Il ne faut pas regretter cette époque-là. Moi, je ne regrette pas du tout le passé. Et en même temps, je m'inquiète d'une situation présente qui, me semble-t-il, est compliqué et pour laquelle on n'a pas toujours mesuré les perspectives. Par exemple, un des points qui me paraît fondamental, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus, je disais inattentifs tout à l'heure, disons un autre mot qui est très utilisé par les parents et par les enseignants, excités. Ils sont excités. Et c'est pas dire que le niveau baisse, de dire que les enfants sont excités. Ils sont excités. Les enfants sont de vraies éponges. Ils reçoivent tout. Tout ça se mélange dans leur tête. Ils ont des quantités d'informations. Ils imbibent aussi les problèmes sociaux, financiers, économiques, etc. de leur famille. Ils ont peur pour l'avenir de la planète. Dans une enquête que j'ai fait faire par mes étudiants l'an dernier, 48% des enfants de 7 à 14 ans pensent que le monde va finir avant qu'ils aient eu le temps de finir leur propre vie. C'est-à-dire près d'un enfant de cet âge-là pense que le monde va sauter, qu'il y aura des inondations, des guerres nucléaires, etc. Donc ils ont complètement intériorisé l'idée d'un monde précaire, d'un monde presque en disparition. Et je pense que tout ça fait des enfants nerveux, fatigués aussi. Quand on passe toute la nuit sur Internet, forcément qu'on est fatigué le matin à l'école. Et quand on est fatigué, la seule manière de se réveiller, c'est de s'exciter. Donc ils sont excités. Et on voit monter une sorte d'excitation face à laquelle il y a une réaction de certains adultes qui consiste à dire, puisqu'ils sont excités, calmons-les. Alors on peut les calmer médicalement, s'ils sont entre guillemets hyperactifs, en leur donnant des médicaments. On peut les calmer par des systèmes de discipline de plus en plus forts, on peut les calmer par une autorité de plus en plus. Mais ce que je crois, c'est que tout ça, ça ne fait que maintenir le couvercle de la cocotte minute pendant un certain temps, mais ça ne traite pas le problème de fond. Et ça ne traite pas la question de qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants pour qu'ils n'aient pas à passer 4 heures par nuit devant l'Internet, ou pour qu'ils y passent 4 heures, mais que ce soit constructif et que ce ne soit pas hypnotique et que ça ne développe pas chez eux des pulsions de mort ou des pulsions d'agressivité. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre société se trouve devant des problèmes inédits où la question de l'éducation devient vraiment centrale. Si on ne la traite pas, on ne pourra la traiter. Enfin, si on ne le traite pas, les problèmes de notre jeunesse par l'éducation, on aura inévitablement, à mes yeux, je peux me tromper, une sorte de retour à des formes archaïques de contention autoritaire, parce que ça apparaîtra comme la seule solution pour que la jeunesse n'explose pas.
C'est ce que vous appelez l'école caserne.
Ça peut être une école caserne heureuse, ça peut être une école caserne avec des fleurs un peu partout, ça peut être...
Mais l'autoritarisme au lieu de l'autorité.
Oui, c'est l'autoritarisme ou bien le tri systématique, l'organisation systématique de la médicalisation. Par exemple, une des choses qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est la médicalisation de toutes les formes d'échecs chez les jeunes et de difficultés, y compris scolaires. Au lieu, quand on a un gamin un peu excité, de se demander si ça serait pas intéressant de lui faire faire du sport ou éventuellement de lui faire faire du théâtre ou quoi que ce soit, ou de la musique ou du chant, immédiatement on va consulter un médecin et on médicalise tout de suite. Notre jeunesse est hyper médicalisée. Je ne suis pas du tout contre la médecine, je dis que la médecine cache le symptôme mais ne traite pas le problème. Le problème, c'est que nos sociétés n'ont pas encore inventé, me semble-t-il, des formes d'éducation capables de répondre aux défis technologiques et à la réalité des jeunes dans nos sociétés développées.
J'ai l'impression que souvent les enseignants se sentent un peu seuls. Ils devraient pouvoir travailler davantage avec les parents, avec des associations, avec les politiques.
Ah oui, ça je pense que la question de l'éducation aujourd'hui est tellement importante qu'elle ne peut pas être traitée ni par les parents seuls, ni par les enseignants seuls, ni par les politiques seuls. Je crois qu'un des vrais problèmes, c'est justement qu'on travaille ensemble.
Mais est-ce qu'on ne se focalise pas, excusez-moi de vous interrompre, sur des sujets qui sont peut-être pas si importants que ça, mais qui soulèvent beaucoup d'encre? Je parle par exemple des notes à l'école. Alors on en fait des choux gras pendant des semaines. Est-ce qu'il faut commencer à telle heure ou finir à telle heure? L'horaire continue, je comprends que ce soit essentiel pour les parents, mais peut-être pédagogiquement, ce n'est pas la base de tout.
Ah, je crois que pédagogiquement, ce n'est pas fondamental. Pédagogiquement, ce qui est fondamental, c'est quelle situation et quelle médiation on propose aux enfants pour grandir. C'est-à-dire, au fond, quel est le statut de la culture qu'on leur propose. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui, par exemple, traiter des problèmes des rythmes scolaires sans s'intéresser à la question des médias, d'Internet, de la télé, etc. Qu'on ne peut pas traiter du problème de l'échec scolaire sans s'intéresser à la question plus globale du statut des familles.
Oui, donc une remise en cause de la société, c'est ça que vous proposez. Je dirais pas une remise, à l'heure du tout politique rapide va être extrêmement difficile à mettre en place.
Je crois qu'il faut dialoguer. Et il faut se donner des objets de travail communs plutôt que de se donner des objets de conflit. On a tendance dans nos sociétés à chercher des objets de conflit. Alors on en trouve toujours quand on veut chercher des objets de conflit. Mais cherchons donc des objets de travail en commun. Demandons-nous, au fond, ce gamin... Chez nous, on a une statistique. 25% des garçons de 14 ans passent plus de 4 heures par jour devant Internet. Bon, 4 heures par nuit en réalité, 1 sur 4. Ça fait beaucoup. Alors demandons-nous ensemble, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Parce qu'il ne suffit pas de couper le courant. Je peux toujours dire, les parents sont des missionnaires, ils n'ont qu'à couper le courant. Mais non, ça c'est une illusion. Personne n'a la solution à ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants trouvent à s'intéresser à des choses qui les aident à grandir? Et qu'ils ne les mettent pas dans une position de fuite permanente ou d'exaspération permanente de leur propre pulsion et de leur propre violence. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait imaginer une société où chacun collabore à la construction de situations plus éducatives? Alors, je ne dis pas que ça ne se fait pas, ça se fait beaucoup. Mais je crois que ça se fait d'une manière trop sectorisée, trop séparée. Alors on traite l'école d'un côté, on traite la famille de l'autre, on traite les loisirs de notre côté, on traite les médias de notre côté, on traite le sport de notre côté. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir une vision un peu plus générale de ces questions éducatives.
Alors, une des questions qui revient régulièrement dans la bouche des enseignants, c'est celle de l'égalité des chances. Comment vous l'empoignez, Philippe Mérieux ?
Alors, l'égalité des chances, c'est pas un concept très républicain. Chez nous, on dit l'égalité des chances, il y a la Française des Jeux pour ça, il y a le loto, il y a Là, il y a l'égalité des chances. Il y a même un huissier pour vérifier que les boules... Non, l'égalité des chances, c'est un concept, moi, que je trouve un peu obsolète et périmé. Je préfère parler de droit à l'éducation pour tous. Je crois que nos sociétés aujourd'hui doivent changer cette idée d'égalité des chances, qui était, au fond, une idée méritocratique du 19e et du début du 20e siècle, en disant droit à l'éducation pour tous. Tout enfant a le droit à être éduqué, alors qu'il soit handicapé, qu'il soit en difficulté, mais qu'il soit aussi sans handicap ni difficulté, il a droit à être éduqué. C'est-à-dire qu'il a droit à rencontrer la culture, l'altérité, l'autorité authentique, des adultes qui l'écoutent. Il a droit à cette éducation. Et il faut faire en sorte que tous les enfants aient droit à cette éducation. Et pas simplement les plus méritants. Alors après...
Ah voilà, la question est là. Alors il y a ceux qui sont les plus méritants, il y a ceux qui ont le plus de facilité. Comment tirer une classe avec, sans pénaliser les uns? C'est une question qui se pose.
Oui,
sans pénaliser
sûr.
Les uns et sans abandonner les autres, ceux qui traînent, ceux qui n'y arrivent pas.
Alors, vous avez de belles expériences pédagogiques en Suisse là-dessus, dans la tradition helvétique. Pestalozzi déjà disait... qu'il fallait justement mettre ensemble des enfants de niveaux et d'intérêts très différents parce que l'entraide entre eux était un des principaux moteurs de la réussite éducative. Je pense que nos écoles ont oublié la vertu de l'entraide entre les élèves et qu'il faudrait sans doute la retrouver, cette vertu-là. De manière plus sérieuse, quoique c'est très sérieux l'entraide, je crois qu'il y a des moyens de traiter la diversité. La diversité est une réalité dans toutes les classes, même la classe la plus apparemment homogène. Il y a des moyens de donner à tous les mêmes contenus de savoir, mais de respecter une certaine différence dans les approches. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile.
Dans une même classe, avoir des approches différenciées.
Oui, bien sûr. On peut parfaitement mettre des élèves au travail sur des objets différents et puis avoir des objectifs communs.
Donc des petits groupes.
Des petits groupes ou du travail individuel. On sait faire tout ça. J'ai tendance à rappeler une phrase d'un homme qui a beaucoup marqué la réflexion éducative, qui a enseigné à Genève de nombreuses années, Michael Huberman, qui disait... au fond, en éducation, tout a été dit, tout reste à faire. Tout a été dit parce que quand on lit Pestalozzi ou le père Girard, on se dit c'est fondamentalement d'actualité ce qui est là. Tout a été dit. Tout reste à faire parce que malheureusement les pesanteurs sont encore très lourdes et que les préjugés sont encore extrêmement forts dans ce domaine. Mais moi je crois que ce que nous vivons aujourd'hui va nous obliger à accélérer la réflexion. Quitte à accepter qu'il y a un certain nombre de crises dans des institutions. La crise est parfois positive, hein, au sens grec du terme. La crise, c'est ce qui peut faire émerger des solutions nouvelles et qui peut nous pousser à inventer. Moi, je suis frappé du fait que les enseignants, les parents, sont trop dans la reproduction des schémas antérieurs face à des situations qui appelleraient plus d'inventivité et de créativité. Or, l'inventivité de nos sociétés, nous la manifestons dans la technique, nous la manifestons peut-être pas suffisamment dans le domaine des institutions et dans le domaine de l'homme et de l'éducation. On sait gérer des choses d'une complexité infinie, une tour de pilotage à Genève, une tour gère des avions... C'est pas plus difficile de gérer une classe. C'est beaucoup moins difficile même de gérer une classe hétérogène. Mais on a mis plus d'énergie à gérer les questions, on va dire, matérielles, technologiques, qu'on a mis d'énergie et de créativité aujourd'hui à inventer des solutions à nos problèmes sociaux. Voilà, je trouve que la modernité s'est défoncée sur la technique et qu'elle ne s'est pas suffisamment emparée des problèmes sociaux dont l'éducation fait partie.
Vous avez vos fans, je vais vous voir sourire. Non, vous avez un public, Philippe Mérieux, en Suisse. Oh, je l'ai constaté. Vous avez aussi, je vais vous rassurer, là, quelques opposants.
Ah ben, j'espère bien.
Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Ils sont parfois violents, d'ailleurs.
Ah oui,
c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, un humaniste violent. Un peu utopiste qui ne voit pas la réalité.
L'antipédagogie est une tradition existante en Suisse comme en France, qui au fond reproche aux pédagogues comme moi de trop insister sur les méthodes et insuffisamment sur les contenus, d'être trop attentif au respect de l'élève et insuffisamment au respect de l'autorité, et de sacrifier parfois l'exigence au profit d'une certaine démagogie.
Voilà, si on lit vos livres, c'est pas vrai.
Alors moi je pense que ce n'est pas vrai.
L'exigence elle est là.
Moi je crois être très très exigeant en particulier, Je milite beaucoup pour ce que j'appelle une pédagogie du chef-d'œuvre, c'est-à-dire je crois qu'il faut que tous les enfants, dans leur scolarité, fassent des choses parfaites. Alors pas parfaites en permanence, mais il faut qu'un enfant puisse à chaque moment de sa scolarité faire des choses dont il soit fier.
C'est-à-dire dire comme ça, un ouvrier de sa machine, vous disiez.
Non, puis comme un compagnon du voyage, il faut des moments où on est... Et on va jusqu'à la perfection, que ce soit dans un dessin en maternelle, à la perfection de ce qu'on peut atteindre à un moment donné, ou dans un texte. Or, trop souvent à l'école, c'est l'inverse, on ne va pas à la perfection. On bâcle son travail, on a une mauvaise note, et puis tout le monde rentre chez soi et on s'arrête là. Non, moi, je considère que je propose, et beaucoup d'autres avec moi, et je suis vraiment... pas seul du tout, nous sommes nombreux dans ce cas-là, une pédagogie vraiment exigeante. Mais c'est vrai, d'autres considèrent que c'est un abandon, un recul. Alors il faut dialoguer, il faut discuter, et puis en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, je comprends l'inquiétude de certains aujourd'hui. Je crois que la situation de l'école et plus généralement de l'éducation est inquiétante, non pas parce qu'on a démissionné, mais parce que le monde est nouveau, qu'il y a des choses effrayantes et que face à cela, on peut chercher soit des boucs émissaires, soit des solutions faciles.
Tout à l'heure, Philippe Mérieux, on terminera par ça, vous avez parlé de droit à l'éducation pour tous. Ça veut dire qu'il faut d'abord croire aux capacités de l'enfant.
Moi, je dis, il faut croire en l'éducabilité. Rousseau disait en la perfectibilité de chacun. C'est pas une...
Sauf la sienne, d'ailleurs, en la matière, Rousseau.
Oui, alors, pour Rousseau, non, mais ça, c'est... alors, croire en l'éducabilité, pour moi, c'est l'éducabilité, dire chacun va y arriver, chacun est éducable, chacun peut comprendre, chacun peut accéder aux formes les plus élevées de la culture. C'est pas nier... scientifiquement l'existence d'inégalités, c'est poser un principe qui est un principe éthique. n'est pas un principe scientifique. Scientifiquement, on me montrera que ce n'est pas vrai, et moi je dirais d'accord, ce n'est pas vrai. Mais éthiquement, je dois faire comme si tout le monde pouvait y arriver. Je ne dois jamais dire « il n'est pas doué pour ceci », parce que je n'en sais rien. Peut-être qu'il reste encore une méthode que je n'ai pas explorée et qui pourrait permettre de le faire réussir. Donc cette conviction de l'éducabilité de chacun, pour moi, elle est au cœur de l'éthique éducative. C'est un peu le serment d'Hippocrate de l'éducateur. Vous savez, comme le médecin fait un serment d'Hippocrate, je vais tout faire pour soigner le malade, je crois que l'éducateur doit faire ce serment d'Hippocrate. Je ferai tout pour que cet enfant qui m'est confié, il puisse réussir dans ce que je lui demande de faire. Et ça, pour moi, ça relève vraiment de l'exigence éthique fondamentale.
Philippe Mérieux, je vous remercie. Je renvoie les auditeurs qui chercheraient à vous connaître mieux et à connaître, j'allais dire, votre méthode. Non, vos idées.
Non, hein. Non.
Pas de recette, pas de méthode. Hein. Vos nombreux livres, Lettres à un jeune professeur, Pédagogie, le devoir de résister, joli titre d'ailleurs. Donc tous ces titres, les auditeurs pourront les retrouver sur notre site internet, lemeilleurdesmondes.rsr.ch. Merci d'être venu jusqu'à chez nous.
Merci beaucoup.
Cette émission vous était proposée par Annick Chouin avec la collaboration de Bruno Seriba, Karine Deladoé et Laurence Bauda à la documentation. Le meilleur des mondes, eh bien vous le savez, c'est tous les dimanches à 11h sur Espace 2 et à 21h le même jour sur Radio Suisse Romande, la première. Alors à dimanche prochain, c'est Rutscheps qui recevra Catherine Cocchio, professeure de littérature comparée, qui publie aux éditions Robert Laffont « L'enfant et le génocide, témoignage sur l'enfance pendant la Shoah ». 2, 1 times 3, 1 times 4, 1 times 5, 1 times 6, 1 times 7, 1 times 8, 1 times 9, 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4, 2 times 5, 2 times 6, 2 times 7, 2 times 8, 2 times 9. Dans le meilleur des mondes, vous avez l'occasion d'entendre des personnalités de tous horizons durant 50 minutes. Des personnalités que vous pouvez écouter à nouveau sur notre site internet lemeilleurdesmondes.rsr.ch ou en commandant le CD de l'entretien qui vous intéresse au 026 323 24 24 ou en téléchargeant nos podcasts.
Victor de Sarzan aurait eu 100 ans cette année. Violoniste, chef d'orchestre, fondateur de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, il est à l'honneur du dernier concert d'abonnement de la saison de l'OCL les 28 et 29 avril à la salle Métropole de Lausanne. L'OCL jouera à l'identique un programme concocté par De Sarzan pour un concert donné à la Maison du Peuple en 1949 avec au menu Vivaldi, Mozart, Defaya, Hindemith et Franck Martin. Un concert coproduit par Espace 2 à vivre en direct sur les ondes mardi 29 avril à 20h.
Espace 2,
la vie
côté culture.
La vie côté culture.
Espace 2, la vie côté culture. Bientôt midi. Après les informations, vous serez en compagnie de Daniel Rosis.